voa.com ou sur notre page Facebook VOA. Bonsoir, bienvenue à ce bulletin au micro Nanit Talani. Il est exactement 15h à Washington, 21h à Ntshilege dans la région septentrionale, la région de Luapula plutôt, Imbala, dans la région septentrionale, c'est en Zambie. Deux policiers ont été tués ce dimanche et trois autres ont été hospitalisés inconscients à Abuja, la capitale nigériane, lors d'une attaque à l'arme blanche et à l'explosif perpétrée par le mouvement islamique du Nigeria, un groupe chiite nigérian pro-iranien. C'est ce qu'indique la police dans un communiqué. Le commandement de la police du territoire de la capitale fédérale du Nigeria soutient et confirme une attaque gratuite du mouvement islamique du Nigeria contre des membres des forces de la police nigériane, a écrit une porte-parole de la police, Joséphine Adeyi. L'organisation interdite a attaqué le poste de contrôle de la police sans provocation en brandissant des machettes, des engins explosifs improvisés et des couteaux, a-t-elle ajouté dans un communiqué. En République démocratique du Congo, des combats entre l'armée et les rebelles du M23 ont éclaté aujourd'hui autour d'une ville densément peuplée dans l'est de la province du Nord Kivu, où les rebelles mènent une insurrection, ont déclaré l'armée et le M23. D'après le porte-parole du M23, Willy Ngoma, les forces gouvernementales avaient attaqué plusieurs positions rebelles autour de Kirumba tôt ce matin et les combats se poursuivaient. Dans un communiqué, l'armée a fait état d'affrontements avec le M23 dans le village de Kikuvo, à une douzaine de kilomètres de Kirumba. En Zambie, huit corps ont été extraits d'une mine de gravier qui s'est effondrée ce dimanche. Un accident tragique qui a eu lieu en fin de matinée à quelques 45 km à l'est de la capitale Lusaka, a annoncé la police. L'accident, qui s'est produit à la suite d'un effondrement sur le site de la mine, a malheureusement fait des victimes près de Chongwe, regrette la police, affirmant que les secours ont travaillé sans relâche toute la journée pour récupérer un nombre inconnu de personnes qui chargeaient du gravier sur le site au moment du drame. Les opérations de secours, qui ont dû être suspendues dans la soirée en raison de conditions difficiles sur le site, doivent reprendre lundi dès l'aube, donc demain, précise encore la police.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Éthiopie, 10 personnes ont été tuées et 8 autres grièvement blessées lors d'un glissement de terrain survenu hier dans la zone septentrionale de Gondar, l'ancienne cité impériale, dans la région Amhara, d'après le média officiel de la région, l'Amhara Media Corporation. Il ne précise pas si les recherches se poursuivent ni à quelle heure s'est produit le glissement de terrain. Les 8 blessés reçoivent des soins, a ajouté l'AMC, citant le responsable local. Jusqu'à 2400 personnes ont été déplacées en raison du désastre et sont actuellement abritées par des institutions sociales locales. Ici aux États-Unis, l'équipe de la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris annonce avoir levé 540 millions de dollars depuis le début de sa campagne il y a un mois. La vice-présidente, qui a rejoint la course à la Maison-Blanche le 21 juillet en remplaçant au pied levé Joe Biden, a été investie cette semaine à Chicago lors de la convention démocrate. Dans une note diffusée à la presse, sa directrice de campagne, Jen O'Malley Dillon, assure qu'il s'agit d'un record pour toute la campagne dans l'histoire. La campagne du candidat républicain Donald Trump avait de son côté déclaré début août avoir quelque 327 millions de dollars à disposition à trois mois d'une élection américaine où ces centaines de millions de dollars sont nécessaires pour notamment financer la diffusion de publicité politique à la télévision. L'Ukraine accuse son voisin le Bélarus, proche de la Russie, de masser des troupes à leurs frontières et a mis en garde Minsk contre d'éventuels actes inamicaux. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères indique avoir repéré que le Bélarus masse un nombre significatif de soldats dans la région de Gomel, près de la frontière nord de l'Ukraine, sous couvert de manœuvres. Nous avertissons les responsables biélorusses de ne pas commettre d'erreurs tragiques sous la pression de Moscou. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Voix et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Heureux de vous retrouver sur VOA Afrique. Vous êtes dans le dialogue des religions. Eric Maniakiza est avec nous. Ce soir, nous explorons le rôle spirituel et social de la ville de Sainte de Touba dans le mouridisme au Sénégal. Michel Claire Joseph assure la réalisation et la production. Touba, la ville sainte du mouridisme, n'est pas seulement un lieu de pèlerinage religieux et se distingue par sa dimension spirituelle, mais aussi par son rôle social et politique au Sénégal. Fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, cette cité incarne à la fois la quête d'une purification spirituelle ancrée dans une pratique orthodoxe de l'islam et la résistance pacifique contre l'oppression coloniale. La ville sainte attire chaque année des millions de pèlerins. Aujourd'hui, la ville dirigée par l'ordre mouride, sa gestion autonome et son indépendance vis-à-vis des institutions étatiques en font un modèle où religion et gouvernance se mêlent. Cette émission de Dialogue des religions nous invite à explorer comment Touba, par son exemple, influence non seulement la spiritualité de millions de mourides et le développement urbain au sein d'un État moderne. Le professeur Mohamed Modge de l'université de Manhattanville à New York est avec nous. Bonsoir professeur Modge.
Bonsoir Eric.
Je précise que vous êtes historien et spécialiste des religions, un profil idéal pour mettre à lumière à la fois les aspects historiques, spirituels et sociaux de cette confrérie souvent importante au Sénégal, votre pays natal. Professeur, pourriez-vous nous éclairer sur les circonstances historiques qui ont conduit à la fondation de Touba et comment cette ville s'est-elle transformée depuis sa création en un centre spirituel de premier plan au Sénégal et au-delà?
Voilà, donc à la fin du 19e siècle, bien entendu, le phénomène universel, c'est l'impérialisme européen avec plusieurs directions, mais en particulier en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sénégal. Et l'un des obstacles majeurs, et pas seulement obstacle, disons, physique, mais aussi un obstacle, disons, psychologique et même militaire, c'est l'islam. Donc, confronté à cet obstacle, le colonisateur français s'est mis de manière systématique à organiser une répression des leaders musulmans. Certains, évidemment, les armes à la main, et d'autres étaient des leaders spirituels. Et dans ce second groupe figure Cheikh Ahmadou Bamba, donc, qui était leader spirituel d'une grande famille religieuse, juriste. Et son père était un juriste, était un cadi, donc un juge. Sa famille est une famille très érudite où on compte plusieurs spécialistes du Coran et du droit. Et donc, lorsqu'il commença à professer une de très bas âge, parce que ses premiers écrits datent de l'âge de 12 ans, il commence à organiser autour de lui une suite de personnes qui étaient affiliées à son père, qui étaient affiliées à ses oncles du côté maternel, etc. Et beaucoup de gens qui étaient, disons, à la quête de réponse à l'offensive triomphante et de, disons, de l'Occident d'une manière générale. Et c'est ainsi qu'il se retrouva en tête d'une confrérie soufie. Donc la Mouridia, et les Français avaient une idée préconçue justement que en fait là il s'agissait d'un signe précurseur, des gens allaient se retrouver autour d'un leader religieux, un marabout comme ils l'appellent dans le jargon français, qui plus tard, fort du soutien populaire, va peut-être appeler à la guerre sainte. Donc pour prévenir cette éventuelle évolution. Donc ils l'ont emprisonné, ils l'ont envoyé en exil deux fois, une fois au Gabon, et ensuite ils l'ont ramené du Gabon, puis dans le sud mauritanien, et puis du sud mauritanien, ils l'ont mis en résidence surveillée à Djebel, qui est un peu la capitale à l'époque du bassin arachidier sénégalais. Et c'est de Djebel que cher Amadou Bamba est allé fonder sa confrérie, disons la dimension territoriale de sa confrérie, en établissant sa capitale à Touba. Donc voilà, de manière très courte, l'histoire de l'établissement de Touba comme capitale spirituelle d'une confrérie en plein développement au cœur du bassin arachidier sénégalais. Dans les circonstances créées par la colonisation française à l'époque, à la fin du XIXe siècle et maintenant au début du XXe siècle. Alors Touba va se développer comme ville centre où les Mouris vont se retrouver autour de leur cher, autour de leur marabout. Dans cette foule qui se retrouve autour de lui, il y a des érudits. Il y a d'anciens guerriers qui faisaient partie peut-être des armées, disons, traditionnelles, qui ont été défaites par la France et qui se retrouvent, en quête de questionnement, de solutions, de réponses face à la crise. Une grande masse de populations qui ont été déplacées effectivement par ces événements, par ces conflits. Et beaucoup de gens très ordinaires qui finalement sont un peu anxieux devant la tournure des événements et qui pensent que peut-être il a la réponse à leur anxiété. Donc c'est cette population qui va se retrouver autour de lui à Touba, et c'est ce qui fait de Touba donc la ville sainte, la ville première fondée par Cheikh Ahmed Bamba lui-même, et qui va grandir et qui va devenir le Touba qu'on connaît aujourd'hui, deuxième ville du Sénégal, et une population pérenne entre 1 million, 1,5 million et même 2 millions selon certains démographes. Et lorsqu'il y a le Magadha, cette population double ou triple selon les journalistes qui couvrent l'événement.
Alors, vous venez de donner les grandes étapes de l'évolution du mouridisme qui ont contribué à faire de Touba une ville sainte aussi influente. Quelle signification spirituelle Amadou Bamba attribuait-il à la création de Touba?
Alors, Touba, comme toutes les créations qui par la suite vont venir, commença par être un dara, donc une école qui attire des jeunes gens, mais aussi qui attire des adultes qui jusque-là étaient plus ou moins non éduqués dans la culture islamique. Et adjacent à cette école, il y a des champs de culture, en particulier la culture arachidière. Et par la suite, lorsque ces jeunes gens et lorsque ces adultes, sortent de cette école, plutôt que de rentrer chez eux, de rentrer vers là où ils étaient originaires, ils préfèrent rester sur place, fonder des familles et étendre l'emplacement de la ville et donc du Dara. Donc c'est un peu, le Dara fonctionne comme ça. Et il continue encore de fonctionner et d'étendre La surface mise en valeur d'abord par les activités agricoles, et plus tard évidemment certains de ces daras deviennent des villes et attirent des fonctions de ville que l'on fait d'une manière générale. Alors comment donc Touba fonctionne? Touba donc est une agglomération de ceux qui ont suivi Cheikh Amadou Bamba, de ceux qui l'ont rejoint là-bas et de leurs descendants, et de ceux qui se sont convertis ou se sont retrouvés ou ont retrouvé que le message leur convenait, et qui ont acquis demeure, quelquefois à temps plein, quelquefois à temps partiel. Et Touba est devenu non seulement lieu commercial assez important du fait même de sa population, et bien entendu aussi un lieu politique important du fait de l'aura du calife de Touba, mais aussi une plateforme économique et de redistribution. Beaucoup de marchandises, par exemple, transitent par la Gambie et remontent vers Touba pour être redistribuées dans le reste du pays et même au-delà du pays dans la sous-région. Et donc, le mouvement incessant de pèlerins qui vont et viennent aussi participe de cet échange d'idées, d'hommes, mais aussi de marchandises. Et donc, ce qui fait que de Touba, c'est une ville qui est multiforme et où souvent nous retenons surtout l'aspect religieux, la ville sainte. Mais c'est une ville ordinaire, doublée de son ossature, donc des villes saintes. Donc Touba fonctionne un peu comme une ville moderne où des activités économiques et sociales se développent selon de manière tout à fait banale. Et de l'autre côté, une ville sainte qui souvent aussi semble être, aux yeux des observateurs, une ville conservatrice et autre, mais la réalité est que c'est une ville dynamique qui se développe. Et qui, bien entendu, combine tout à fait les aspects spirituels, économiques, politiques et sociaux de façon plus ou moins harmonieuse.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du combat contre la colonisation. Comment le mouridisme mène à terme la résistance à l'asservissement colonial?
Alors, le mouridisme, comme j'ai dit, est né à une époque où les Français avaient peur d'une sorte de série de djihad dirigés par des marabouts. Et d'ailleurs, c'est ce soupçon qui leur a fait interner, exiler, déporter, etc., cher Amadou Bamba. Mais, en fin de compte, ils se sont rassurés du fait que d'abord, cher Amadou Bamba et d'autres d'ailleurs comme lui se limitent à un combat spirituel, à une sorte de révolution des âmes d'une part, et d'autre part de plus en plus l'administration coloniale s'est retrouvée disons à une sorte de collaboration avec ces mouvements soufis, parce que ces mouvements soufis ont décidé de ne pas engager le combat frontal contre la France et en particulier de ne pas lever des armes contre la France, mais de rendre la France moins méfiante et de faire aussi en sorte que le groupe soufi n'attire pas les suspicions. Et d'autre part aussi de créer une situation de non-dépendance sur les autorités coloniales en prônant une indépendance économique, même si cette indépendance économique passe par une promotion de la culture arachidière ici, et qui participe de l'économie coloniale, et fait en sorte que les membres du groupe gagnent de l'argent à travers la commercialisation de leurs produits, et non pas simplement lever des cultures vivrières comme c'était la tradition avant, mais maintenant ils combinent culture vivrière et culture commerciale comme l'arachide, et ou le coton, etc. Avec cet argent, ils s'acquittent de l'impôt colonial. Et l'impôt colonial, pour un système colonial, est très important parce que c'est ce qui permet de faire fonctionner le système. Et de ce point de vue-là, ces communautés achètent en quelque sorte la paix avec la France, qui finalement se rend compte que voilà des communautés qui sont pacifiques, qui certainement n'ont pas beaucoup de sympathie pour la France, ne sont pas amoureuses du tout de la France, mais qui s'acquittent de leurs impôts, qui s'acquittent de leurs obligations lorsque ces obligations sont raisonnables, demandées par l'autorité coloniale, et en fin de compte, les autorités décident de les laisser en paix. Et une partie de ce qu'on appelle l'autonomie de Touba est fondée un tout petit peu sur ce modèle. Tant que ces gens-là s'acquittent de leurs impôts, lorsque la France a besoin de travaux pour, élargir une route ou de débroussailler une zone pour y établir des lignes de chemin de fer, etc. Les talibés, donc les affiliés de ces mouvements soufis, et dans ce cas particulier les mourides, vont y participer et donc contribuer un peu à l'œuvre coloniale, entre guillemets, tout en disant nous n'adhérons pas au système colonial. Nous ne voulons pas du système colonial, mais nous pouvons vivre en paix, à côté, et en reconnaissant l'autorité politique du système colonial. Et tant que le système colonial n'intersecte pas dans nos domaines sociaux, familiaux, religieux ou autres, nous pourrons avoir cette relation. Et ça, c'est la base de ce qu'on appelle l'autonomie mouride. Travailler pour ne pas être dépendant de ce gouvernement pour quoi que ce soit. Et c'est un peu ce qui fait la base de cette autonomie mouride qu'on retrouve un peu, et certains pensent quand même que ce serait une idéologie qui pourrait porter le développement au Sénégal et peut-être ailleurs.
Vous suivez le dialogue des religions. Notre invité, c'est le professeur Mohamed Mbodj. Nous parlons du rôle de la ville sainte de Touba dans le renouveau spirituel et social au Sénégal. Professeur, en quoi le grand magal de Touba reflète-t-il l'influence de la confrérie au niveau national et international?
Voilà, donc le magal, tout d'abord, il faut relever une chose qui est très particulière. Le magal ne célèbre pas le retour du saint, mais célèbre le départ du cher Amadou Bamba en exil. Parce que pour lui et pour ceux qui le suivaient, c'était le signe qu'il allait aller dans des épreuves, un peu comme le prophète Mohammed qui est allé dans des épreuves, où il allait risquer sa vie, et au retour, il va être triomphalement sain et sauf, et va pouvoir vivre en paix sa foi, et même étendre sa foi, et même triompher avec sa foi. Donc c'est ce départ qui est célébré. Alors, les mourides vont affluer de toutes parts. Il y a même des vols chasseurs à partir de l'Europe et des États-Unis et d'ailleurs. Et maintenant, le magal aussi symbolise une sorte d'autonomie religieuse, entre guillemets, je mets bien des guillemets, qui est un peu le parallèle peut-être du pèlerinage à la Mecque, sans être son équivalent, et sans le dire, et sans jamais l'avoir dit d'ailleurs, mais en quelque sorte de créer un lieu et un temps où les mourides peuvent communier entre eux, communier avec le saint fondateur, communier avec le prophète Mohammed, et au-delà avec Dieu, pour recélébrer, pour se reconnecter, pour se ressourcer, pour réaffirmer leur attachement à leur foi, à leur groupe soufi, et donc le faire chaque année en quelque sorte une sorte de revivification de la foi. Donc ça, c'est le côté symbolique. Sur le côté pratique, nous l'avons déjà dit, des centaines de milliers, voire des millions de personnes se déplacent, et souvent d'autres personnes font des œuvres de charité qui consistent principalement à leur fournir le gîte et le couvert, ce qui fait que lorsqu'on va à Touba, on peut y aller avec simplement ce qu'on a sur soi, on est sûr de pouvoir manger, et on est sûr de pouvoir dormir quelque part, donc parce qu'il y a des gens qui font œuvre de charité pour habiter les pèlerins, pour les nourrir, etc., etc. Une grande mosquée a été construite à Touba, une mosquée gigantesque, je crois que pour l'instant la plus grande de l'Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas, et qui célèbre d'une part le triomphe de Cheikh Amadou Bamba, donc avec une visualisation de son combat et de sa victoire, mais en même temps aussi symbolise l'unité, mais et aussi fait une sorte de référence géographique. Dans beaucoup de champs mourides, on fait référence au minaret de Touba comme étant l'horizon spirituel qui guide le regard et qui les fortifie et dans leur persistance, dans leur effort pour atteindre la perfection. Donc, il y a aussi ce côté symbolique et donc de la grande mosquée de Touba qu'il ne faut pas oublié. Et évidemment, maintenant, il y a aussi que durant le Magal, comme j'ai dit, la population de Touba double, triple, quadruple, suivant les reporters qui souvent donnent des chiffres qui étaient très difficiles de vérifier. Mais on se rend compte que lorsqu'on a ces millions de personnes sur place, il y a des affaires qui vont être nouées, il y a des relations qui vont être nouées, il y a des démarches qui vont être entreprises, il y a un marché pour des produits, il y a un marché pour des services, etc., etc. Donc c'est une sorte aussi de grande foire annuelle en marge de la cérémonie religieuse, en marge de ce qu'on appelait l'aspect religieux. Il y a bien une sorte de grande foire, de plus grande foire au monde, en tout cas en Afrique de l'Ouest, durant le Magal.
Et comment les préceptes de l'islam, tels qu'interprétés par la confrérie Mouride, influencent-ils la vie quotidienne des habitants de Touba?
Alors, d'une manière générale, le Mouride est quelqu'un qui vise à son autonomie économique. Comme je l'ai déjà dit, dans le contexte colonial, c'était participer à la culture arachidière, etc., etc. Maintenant, cette expansion du domaine agricole se poursuit, mais de façon plus ralentie. Et l'un des préceptes majeurs donc du Mouride, c'est de gagner sa vie. Et de gagner sa vie de n'importe quelle manière qui soit, l'essentiel, c'est que cette manière soit honnête. Donc, ce qui fait que le Mouride peut être vendeur dans la rue, peut être balayeur dans la rue, peut même émigrer pour être balayeur ailleurs et pour pouvoir non seulement établir sa propre indépendance économique, mais aussi contribuer à l'indépendance des autres. Il y a aussi une chaîne de solidarité extraordinaire qui fait que dans ces associations des talibés mourides, les gens peuvent trouver du travail sur recommandation, sur une sorte de réseau, peuvent trouver des circuits d'émigration, peuvent même trouver des circuits de financement de leurs projets. Les mourides qui sont très riches peuvent prêter de l'argent sans intérêt à des mourides moins riches, sachant qu'ils sont remboursés parce qu'ils sont dans ce cadre, donc devant Dieu, disons, et devant le saint. Et, ou même quelquefois, un concept que les Américains pensent que c'est américain et qui consiste à payer d'avance, c'est-à-dire je donne mon argent parce que je suis capable et j'ai cet argent à quelqu'un qui démarre une entreprise, mais lui, si son entreprise réussit, s'il accumule de l'argent, il le fera pour d'autres, et ces gens-là, que ce côté individu va financer, va soutenir, ils vont le faire pour d'autres. Donc il y a une chaîne où on finance par avance une génération, deux générations ou trois générations, où on développe ses fonds, on crée ses entreprises, ses activités économiques, en pensant avec l'idée que si je favorise les activités économiques de quelqu'un qui est simplement mon camarade mouride, un autre talibé mouride, il le fera pour un autre, il le fera pour deux autres ou pour trois autres, etc. Et donc cette chaîne s'étendra à beaucoup d'autres mourides et faire en sorte qu'il y ait une sorte de solidarité mourite qui s'étend au-delà même simplement des paroles, mais qui entre aussi dans ce qu'on peut appeler des investissements économiques, des cercles où des affaires se font et se défont.
Touba, en tant que centre névralgique du mouridisme, témoigne de la force et d'une foi vivante, capable de transformer non seulement des individus, mais aussi des communautés entières. La ville sainte, tout en s'ouvrant aux défis modernes, reste un phare d'orthodoxie islamique et de gestion autonome, illustrant comment une confrérie religieuse peut jouer un rôle central dans le développement social et économique. Nous arrivons au terme de cette édition de ce dialogue des religions. Merci au professeur Mohamed Mbodj pour sa grande contribution, pour son éclairage sur cette ville sainte de Touba et son rôle dans la société sénégalaise. Professeur, merci beaucoup.
Merci et bonsoir.
Eric Manilakis a été avec nous. Michel Claire Joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.